France Info.
Marie Coleman nous a rejoint ainsi qu'Antoine Krempf. Bonjour Marie.
Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous.
Bonjour Antoine.
Bonjour Bruce, bonjour à tous.
On commence avec vous Marie, c'est l'une des 7 merveilles du monde, classée par l'UNESCO au patrimoine de l'humanité. Et pourtant, le Taj Mahal, puisqu'il s'agit bien de cela, ne figure plus cette année dans les guides touristiques indiens.
Oui, c'est une décision de la ministre du Tourisme de l'Uttar Pradesh. L'Uttar Pradesh, c'est la région qui a pour capitale Agra, c'est là où se trouve le Taj Mahal. Hein. Le nouveau guide de tourisme qui vient d'être édité mentionne de nombreux sites hindous, mais curieusement, pas le Taj Mahal, ce monument qui paraît pourtant indissociable de l'Inde. Eh bien non, justement, pour la ministre du Tourisme, le Taj Mahal ne reflète pas l'Inde et sa culture. Plus étonnant encore, elle avance un nombre de visiteurs en baisse au Taj Mahal. Ce qui, juste en passant, peut un tout petit peu étonner la visiteuse que je fus lundi dernier et qui frisa l'écrasement sous le poids des milliers de visiteurs au moment de rentrer dans le Taj Mahal. Mais la vraie raison de cet incroyable zapping est à chercher ailleurs, dans la nature de ce monument, qui, rappelons-le, est un mausolée construit au XVIIe siècle par un empereur pour la femme de sa vie qui venait de mourir. Le vrai problème que pose le Taj Mahal à l'Inde aujourd'hui, qui a porté au pouvoir un parti politique hindou extrémiste, c'est que c'est un monument construit par un empereur musulman. Un de ces moghols venus de Perse et d'Afghanistan qui envahirent le nord de l'Inde au XVIe siècle. Et s'ils furent longtemps considérés comme les premiers et les grands bâtisseurs de l'Inde, ils sont aujourd'hui accusés par l'extrême droite hindouiste d'avoir commis un holocauste sur les populations locales et toutes les rues qui portaient l'un de leurs noms portent aujourd'hui des noms hindou. Plus fou encore, les manuels scolaires d'histoire de cette année ont littéralement gommé tout le passé moghol du pays. À Agra, la ville du Taj Mahal, la nouvelle a été accueillie avec consternation. Mmh. C'est le tourisme qui fait vivre la ville. Le Taj Mahal fait travailler environ, de près ou de loin, 400 000 personnes. Et ce monument génère 20% du budget de l'État de l'Uttar Pradesh, déclarait un homme d'affaires. Tandis qu'un député de l'opposition confiait « Faire l'impasse sur le Taj Mahal, quand on parle de l'Inde, c'est soit une plaisanterie, soit une tragédie, je penche pour la deuxième option. Il y a de fait quelques raisons de s'inquiéter, car dans la foulée de cette décision, la dotation prévue pour la restauration du Taj Mahal a été supprimée, elle aussi. »
Oui, bon, c'est hallucinant votre histoire. Mais c'est pas parce que ça ne figure plus sur les guides que les gens vont arrêter de venir le voir. Heureusement d'ailleurs.
Heureusement, voilà.
Merci beaucoup Marie Coleman. On passe au fake maintenant, oui, avec Antoine Krempf et on va parler ISF ce
oui,
matin.
Mais on entend beaucoup de choses hein, sur cet impôt sur la fortune transformé bientôt en IFI, impôt sur la fortune immobilière. Tiens, par exemple, hier matin, Premier ministre Édouard Philippe sur Europe 1, Philippe Martinez, lui, secrétaire général de la CGT, sur France Info avec Jean-Michel Apathy.
On supprime l'ISF parce qu'on a constaté dans les 15 dernières années que l'ISF réduisait la matière taxable en France. Parce que ceux qui partent, partent de façon continue depuis 15 ans. Donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est d'abord que les plus riches cessent de partir.
Quand on dit depuis 20 ans que l'ISF a fait fuir les fortunes, vous trouvez que c'est faux?
C'est faux.
Alors, d'un côté, on l'a entendu, on a un Premier ministre qui affirme que les plus riches partent de façon continue à cause de l'ISF, et de l'autre, le secrétaire général de la CGT qui dit « c'est faux ». Alors, qui dit vrai ?
Alors, c'est compliqué à vous dire, en fait, Bruce. D'abord, voilà ce qu'on sait. En 2002, 206 redevables de l'ISF, avec un patrimoine net de plus d'1 300 000 euros, sont allés s'installer à l'étranger. 10 ans plus tard, 2012 donc, dernière année disponible, on était à 587, chiffre de la Direction Générale des Finances Publiques. Dans le détail, c'est surtout entre 2002 et 2006 que la hausse a été la plus nette. Depuis, c'est plutôt stable, d'une année sur l'autre, entre 500 et 600 personnes contribuables qui partent chaque année.
Donc, si on s'arrête là, Édouard Philippe a plutôt raison. Le nombre de départs chez les assujettis à l'ISF a plus que doublé en l'espace de 10 ans.
Oui, enfin, il faut quand même relativiser ces chiffres. Il y a aussi des retours chez les redevables de l'ISF. En gros, une centaine reviennent chaque année en France. Il y a aussi, par ailleurs, environ 330 000 assujettis à l'impôt sur la fortune chez nous. Du coup, 5 à 600 départs sur 330 000, ça pèse pas bien lourd, hein, moins de 1% du total. Bref, de ce point de vue-là, Philippe Martinez n'a pas tort lorsqu'il sous-entend que ça reste très très marginal.
Alors, ça, c'est pour les effectifs. chiffres, mais on connaît le manque à gagner lié à ces départs de riches ou très riches contribuables.
Alors voilà ce qu'on sait. Les 587 foyers fiscaux partis en 2012 ont payé 39 millions d'euros d'ISF cette année-là. Par ailleurs, une bonne partie d'entre eux étaient aussi imposables sur le revenu pour un total là de 446 millions d'euros. Vous allez me dire que ça fait quand même une belle somme, sauf que bah là, encore prudence avec ces chiffres, hein, parce que certains exilés, on ne peut pas savoir combien continuent de devoir l'ISF, même s'ils sont à l'étranger. Idem pour l'impôt sur le revenu. Bref, impossible de connaître précisément le manque à gagner des exilés de l'ISF.
Donc, impossible d'affirmer d'un côté ou de l'autre que cela, que cela a une incidence sur,
renvoyer dos à dos,
sur une politique ou sur des départs. Merci beaucoup Antoine Crème.